C'est pas du vent. C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Brun.
Bonjour, c'est un scandale silencieux, le symptôme d'une maladie qui ronge nos sociétés dites développées. Les migrants constituent l'essentiel de la main-d'œuvre agricole en Europe. Ils viennent essentiellement d'Afrique, la tête pleine de rêves, des rêves qui se brisent sur le rocher de la compétitivité. Produire toujours plus de fruits et de légumes, des fraises et des tomates en hiver, sous serre, à coups de pesticides. La cadence est infernale et les conditions de vie déplorables.
C'est pas du vent sur RFI.
Bonjour Nicolas Duntz.
Oui, bonjour.
Vous êtes en charge du groupe de travail saisonnier migrant à la Confédération Paysanne. C'est un syndicat agricole qui dénonce les travers de l'agriculture industrielle. Vous êtes en duplex de Nîmes grâce aux équipes de France Bleu Gare Lozère, que l'on remercie au passage. Alors, quand avez-vous créé ce groupe à la Confédération Paysanne et quel est son objectif?
Écoutez, ça fait une douzaine d'années maintenant qu'on travaille de façon ardue sur ce thème qui est un thème difficile. À partir du moment où on s'est rendu compte de l'extension exponentielle de ces gros bassins de production qu'on pouvait trouver à Almeria ou à Huelva, ou toujours pareil en Andalousie, et des dégâts que cette agriculture industrielle induisait à la fois sur la qualité des produits agricoles ou fruitiers et simultanément sur les droits sociaux, les droits du travail en général et les droits humains d'une façon tout à fait particulière, puisque dans ces gros bassins qui font rêver beaucoup de personnes sans travail, en Europe d'une part, mais aussi d'autres personnes qui, on va en parler, ont été des exclus des politiques agricoles communes et qui se retrouvent du jour au lendemain ou dans un espace de 2 ou 3 ans incapables de se rémunérer eux-mêmes, de rémunérer leur travail, de nourrir leur famille, leur village, et donc sont jetés sur les chemins de la déshérence et de la migration forcée.
Alors il y a toujours eu des migrants dans l'agriculture, parce que la cueillette par exemple ne demande pas beaucoup de qualifications. En quoi est-ce plus choquant aujourd'hui ?
Des migrants, je ne sais pas s'il y en avait toujours, ce n'est pas parce que le travail n'est pas difficile que ce sont des migrants qui doivent le faire. À l'heure actuelle, ce qui est le plus choquant, c'est simplement le caractère violent de la politique agricole, on va dire mondialisée, qui a une vocation seule, elle, contrairement aux agricultures paysannes, c'est de produire énormément de produits sur des petits endroits, relativement, et de moins en moins cher, en utilisant toute la technique, tout le scientisme nécessaire à la mise au point des énormes rendements, tout ça. Et donc, à partir du moment où des opérateurs industriels concentre sur des bassins de production comme Almeria, par exemple, la capacité de faire des milliers de tonnes pour nourrir, soi-disant, le peuple européen. En faisant cela, on détruit toutes les agricultures paysannes vivrières de l'Europe. Tous les petits producteurs, le roumain, le polonais, même français, qui faisaient leurs tomates ou leurs fraises à Marmande ou ailleurs, se trouvent ruinés, incapables de lutter sur les prix. Donc, en créant des bassins comme ça, on crée une désertification. On crée de la déshérence, je l'ai dit tout à l'heure, des faillites, et on crée aussi un énorme besoin de main-d'œuvre, puisque pour Almeria, 40 000 hectares de serre, au bas mot, on peut recenser plus de 100 000 ou 120 000 personnes, hommes et femmes, de toutes origines, qui, pour beaucoup, sans contrat de travail, donc des sans-papiers, à la merci des opportunistes, des patrons qui viennent les chercher au bord des routes ou pas, ou qui leur promettent ou pas du travail. On a fait miroiter ces endroits-là comme étant des Eldorado pour tous les pauvres du monde qui sont arrivés par leurs propres moyens, pour en tout cas pour ceux qui sont arrivés à payer leur voyage d'une part et à ne pas se retrouver noyés au fond de la Méditerranée. Voilà l'ambiance générale de cet appel d'Eldorado, l'appel d'air pour les plus pauvres.
Alors justement, vous parlez d'Almeria. Almeria, c'est en Andalousie, dans le sud de l'Espagne. Je vous propose de nous y rendre tout de suite. C'est une région bien connue des touristes européens qui viennent profiter, eux, des plages de sable fin, du soleil et de l'eau turquoise. Mais comme vous le disiez, à peine quelques kilomètres de cette jolie côte, il y a des milliers d'hectares de serres, toute la réserve de fruits et de légumes de l'Europe entière. Plus de 120 000 travailleurs migrants venus principalement d'Afrique travaillent sous ces serres dans des conditions très difficiles. Alice Milo est partie sillonner ce paysage un peu surréaliste de plastique en compagnie de Spitu Mendy, les porte-parole du SOCSAT, le syndicat des travailleurs andalous.
Voilà, venez, je vais vous montrer. Regardez, tout au long, nous voyons une vaste étendue de serre. Du haut de la montagne, on voit parfaitement la mer de plastique.
Donc là, on est sur à flanc d'une des collines qui longe la côte andalouse. Et là, effectivement, donc à nos pieds, ces kilomètres de serres. Et c'est vrai qu'elles sont tellement immenses qu'on ne voit presque pas la délimitation entre les serres de plastique et puis la mer. Au loin, ça se confond presque.
Oui, et il y a une superficie de 40 000 hectares. Une fois que tu ne vois plus de serre, tu n'es plus almérien, hein? C'est sûr. La consommation en eau, ce que ça représente en plastique, en déchets toxiques et tout ça, c'est énorme.
Qu'est-ce qu'on cultive dans ces serres exactement, Spitu?
De la tomate, c'est des courgettes, des aubergines, etc.
Ça alimente toute l'Europe?
Effectivement. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure qu'à partir des magasins de conditionnement, chaque soir, c'est des trailers, de gros camions qui partent lourdement chargés pour le nord. Ici, je rappelle que nous sommes au sud de l'Europe, hein, la frontière avec l'Afrique. Et d'ici partent pour des milliers de kilomètres des trailers chargés de ces fruits et légumes pour ravitailler le nord de l'Europe. La majeure partie de ces fruits et légumes, les tomates, concombres, courgettes, viennent d'Almeria. Il faut faire attention sur l'étiquette, c'est toujours j'ai été surpris en Suisse, en France et même en Allemagne, voire produit d'Espagne. Et quand tu vas plus loin, tu vois Almeria.
Et alors, qui travaille dans ces serres?
Chaque fois que tu entres dans une serre, s'il y a 10, les 9 sont étrangers.
Et un Espagnol?
Un Espagnol qui est le propriétaire ou le chef d'équipe. Et avec la crise, il y a une tendance au retour, mais ce retour vers la terre est pénible et difficile pour eux. Même dans les magasins de conditionnement, il y a des jeunes qui s'essayent parce qu'ils sont obligés de travailler, mais au bout de quelques heures, ils abandonnent. Ils jettent l'éponge et s'en vont. Sous serre, il fait 50 degrés, surtout présentement, il fait trop chaud. Et les natifs ne sont vraiment pas pour. Ils ne sont pas pour.
C'est un travail trop difficile pour les Espagnols.
C'est très difficile. La main-d'œuvre à ce niveau est à 99% étrangère. La majorité, c'est des Marocains. Les subsahariens, il y a réellement des chiffres mitigés entre les Maliens et les Sénégalais. Ensuite, les autres pays africains sont, qui restent Côte d'Ivoire, un petit pourcentage, Gambie. Il y a toute l'Afrique qui est là, en réalité.
Est-ce qu'on a une idée du nombre de travailleurs étrangers ici?
Il y a plus de 100 000. Qui travaillent dans l'ombre, parce que ce n'est pas des gens déclarés. La paye est misérable, 30 euros la journée de 8 heures. Il n'y a pas d'embauche, il n'y a rien, il n'y a aucun contrat. Et l'inspection du travail, des fois, fait des descentes, mais avant qu'elle n'arrive, il y a une alerte. Le bruit court, et que les sans-papiers ne vont pas travailler ce jour-là, et tout le monde est propre. Donc leur histoire individuelle et collective sont absorbées par le plastique.
Vous, quand vous venez ici, là, sur ce promontoire, sur les flancs de cette colline, et que vous voyez là cette mer de serre devant vous, qu'est-ce que vous ressentez, vous, Spitu Mendy?
Je ressens la douleur des gens qui font la richesse de cette province, la richesse de l'Europe. Ces ouvriers agricoles, c'est des êtres humains comme moi, comme vous et moi, comme les consommateurs. Mais ils sont réduits à l'état d'esclavage. C'est des esclaves. Le dire choque. Mais c'est ça la réalité.
Et vous, Spitu Mendy, quelle est votre histoire?
Ça fait 6 ans que je suis là. J'ai abandonné la crèche. J'étais professeur de langue dans l'enseignement privé catholique au Sénégal pendant 13 ans. Mon salaire était trop bas pour quelqu'un qui a fait ses études, qui est enseignant. Quand on a une famille à maintenir, des fois, c'est du gourgourlou, quoi, pour te parler sénégalais. On se débrouille. Mais je suis venu, j'étais pris au piège. J'ai travaillé 4 ans dans les serres, clandestins.
Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé pour vous?
Donc, à partir de 2000, quand je suis arrivé, 2001, en novembre, j'ai commencé à chercher un espace pour m'épanouir. Et on m'a montré le SOC. Le SOC, c'est le syndicat des ouvriers agricoles. En espagnol, Sindicato de Obreros de Campo. Alors, je suis responsable de ce syndicat depuis 2006. J'accompagne ces gens-là, je leur explique leurs droits. C'est ça notre devoir de solidarité.
On va peut-être justement essayer d'aller les voir sur le terrain.
Parfait.
On va essayer d'aller les trouver.
Parfait.
On va redescendre les flancs de la colline.
Si, on va refaire le chemin inverse, redescendre. Et au bas de la colline, nous allons essayer de rencontrer des travailleurs agricoles.
On y va ?
Oui.
Alors là, ça fait à peu près 20 bonnes minutes qu'on roule au milieu des serres qui s'étendent vraiment à perte de vue. On a slalomé là, pendant plusieurs kilomètres dans les serres et là, on s'est arrêté, Spitou.
Oui, on s'est arrêté ici parce qu'il y a quelques baraquements où vivent des gens.
Les gens vivent au milieu des serres.
Oui, ils vivent au milieu des serres parce que ça leur facilite l'accès à leur entreprise, entre guillemets. C'est que ces serres qui leur permettent de gagner le peu qu'ils gagnent. Donc, ils ne peuvent pas s'offrir le luxe d'aller vivre loin. Parce que, premièrement, ils n'ont pas les moyens de transport et ils n'ont pas les moyens de se payer une voiture ou une moto.
Hola. Comment ça? Salam alaikum. Gambia man, how are you?
Juan.
Dégoûte-moi inglés.
Olof
la boule la kéké, dégoûte-moi.
Vous habitez ici?
Oui, moi je vis ici.
Vous vous appelez comment?
Moi je m'appelle Adama Touré.
Vous me faites visiter?
D'accord, pas de problème.
Donc on rentre dans la petite maisonnette?
C'est la chambre de mes amis.
Il n'y a pas de porte, hein, il n'y a pas beaucoup d'intimité. Hein.
Non, il n'y en a pas tellement. Ici il y a 4 personnes ici.
Qui vivent dans cette chambre?
Dans cette chambre. Et ici c'est la cuisine.
Donc là il y a un monsieur qui est en train de préparer à manger.
Ouais.
Qu'est-ce qu'il est en train de préparer?
Ça c'est le poulet. On a préparé le poulet comme ça.
Combien de personnes vivent dans cette maison?
Je crois en tout, ça fait 13 personnes ou 12 personnes, je crois.
Ça fait beaucoup dans une petite maison.
On n'a pas le choix. Des Sénégalais, des Maliens, des Gambiens. Nous sommes tous des Africains. On prépare ensemble et la vie continue. Moi, je suis là depuis 2008 jusqu'à nos jours. Moi, je suis Malien.
Vous avez quel âge?
Moi, actuellement, j'ai 34 ans.
Pourquoi vous êtes parti du Mali?
Moi, personnellement, j'ai étudié depuis 1990 jusqu'à 2007. J'avais mon père qui finançait mes études. Quand lui l'a décidé, je n'avais plus personne pour m'appuyer. Je n'avais pas le choix. J'étais obligé de sortir pour que mes frères n'auront pas la même situation que moi.
Vous êtes ici pour payer les études de vos frères et sœurs?
Naturellement.
Pourquoi vous avez choisi de venir à Almeria en particulier?
Bon, quand moi je suis venu, mon grand frère, lui, il était à Madrid. Il m'a envoyé chez un ami ici. Le même jour que moi, je suis arrivé ici vers 5h du matin. Et à 6h du matin, j'ai été au boulot. Je n'avais pas le choix.
Comment ça se passe le recrutement ici?
Si moi je travaille avec un patron, s'il a besoin de gens, il me dit, bon, il faut amener tes amis. S'il y a beaucoup de travail, c'est comme ça. Mais s'il n'y a pas beaucoup de travail, bon, on peut faire 3 mois, 2 mois comme ça sans recruter.
Mais vous faites la cueillette?
Tout. Ce n'est pas un travail difficile, mais la connaissance est difficile. Parce qu'on nous maltraite. Mais... Ici, moi, je peux travailler jusqu'à 30 jours dans mon bulletin de paie, mais 10 jours de travail, le reste dans ma main.
On vous déclare 10 jours et on vous paye non déclaré les 20 autres jours.
Les 20 autres jours.
Mais quand, par exemple, vous travaillez un mois, vous arrivez à mettre combien d'argent dans votre poche?
700 euros. Parce qu'il y a des patrons qui payent à 30 euros par jour. On nous maltraite, on nous fait n'importe quoi, on est obligé d'accepter, puisqu'on n'a pas le choix.
Qu'est-ce que vous vous attendiez à trouver ici?
Moi, je m'attendais au paradis. C'est ce qu'on nous enseigne à la télé là-bas. L'Europe, c'est des belles femmes, l'Europe, c'est des belles voitures, l'Europe, c'est tout, il y a tout en Europe. Mais quand je suis venu, c'est le contraire. J'ai vu que c'était le contraire. J'ai mis ma main dans un trou que je ne peux plus sortir. Mon souhait est que mes frères parviennent à bien étudier et qu'il y ait un bon boulot demain. Ils n'auront pas le même sort que moi. Pour moi, c'est fini.
Mais vous vous sacrifiez alors?
J'ai pas le choix.
Un reportage de Alice Milo, réalisé par François Porcheron. Nicolas Duns, je rappelle que vous êtes en charge du groupe de travail saisonniers migrants à la Confédération Paysanne. Est-ce que ce reportage reflète bien la réalité que vous connaissez?
Absolument. Et encore, il est gentil, dans la mesure où un certain nombre d'événements qui se produisent souvent, en particulier envers les femmes, il est quasiment muet sur l'opacité de la question du genre et de quels sont les ce qui arrive.
On va en parler dans la deuxième partie de l'émission.
Voilà, parce que sur les 100 000 personnes qui sont présentes ou 120 000, il y a une forte proportion d'hommes certes, mais il y a aussi pas mal de femmes qui sont venues, soit d'ailleurs toutes seules en pensant à quelque chose comme une émancipation possible, soit qui ont suivi leurs hommes au fil des marées. Et qui se retrouvent non pas tant dans les serres, ce qu'ont visité vraisemblablement vos reporters, mais beaucoup plus dans les stations de conditionnement, puisque tous ces légumes qui sont travaillés sous serre dans des conditions très pénibles, il faut les conditionner dans des cageots. Et là aussi, on en parle peu, mais c'est aussi des conditions un peu moins dures, parce que moins chaudes, moins de chaleur, moins d'humidité, moins de pesticides directs dans la gueule, mais un rythme incessant, incroyable, de 3 heures du matin à 10 heures du soir, pour mettre courgettes, poivrons, etc., dans des cagettes qui partent, qui vont charger des camions, qui seront en pleine période de l'ordre de 2000 camions, qui partent vers le nord de l'Europe, irriguer tous les supermarchés, toute la distribution.
Oui, parce que ce système, en fait, c'est le résultat d'une course vers le profit maximum. Hein. Qui sont les entreprises qui en profitent?
Alors, c'est tout l'agroalimentaire européen. D'une part, principalement, il faut savoir qu'El Ejido, qui est proche d'Almeria, hein, c'est un village tout à fait proche d'Almeria, c'était la zone la plus déshéritée d'Andalousie à l'époque, et maintenant, El Ejido, dans l'affaire de 30 ans, c'est quelque chose comme 40 ou 50 banques, un village tout à fait pimpant, et qui côtoie les chabolas, des migrants qui sont installés de façon tout à fait précaire, comme ils peuvent, s'ils ne sont pas ratonnés. Donc c'est tout l'agroalimentaire qui en profite, et ils sont tous là, hein. On ne va pas les citer, mais...
Si, allez-y.
C'est les Super U, les Carrefour, les grands groupes de distribution de l'alimentation en Europe, qui revend après à leur gros site, leur demi-gros site, ou qui ont des trajets directs sur les marchés Rungis et autres marchés européens. Et donc, le pire de cette situation, c'est que on fait miroiter qu'on est capable ici de produire à bas prix. Et donc, ceux qui en profitent aussi, c'est pas contrairement à ce que disent les syndicalistes, la seule grande distribution, mais c'est aussi le consommateur final, puisqu'il va trouver des courgettes ou des fruits hors saison. Il va pouvoir manger des fraises à Noël et des cerises à Noël, et il va pouvoir les manger, les acheter pas cher. Et donc là, on joue sur un leurre épistémologique, je ne sais pas comment dire ça, on fait miroiter une baisse des prix générale pour tout le monde, alors que cette baisse des prix, elle a un coût.
Et on vient bien de l'entendre. Le coût, il est social et aussi un coût sanitaire pour ces populations qui sont maltraitées. Nicolas Duns, vous restez avec nous sur RFI. Juste après le flash d'info, nous retournerons à Almeria, dans le sud de l'Espagne, découvrir notamment le rôle du SOCSAT, ce syndicat qui essaye de défendre les travailleurs migrants à tout prix. À tout de suite.
Tous les cinémas du